Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. De quoi a-t-on bien pu parler aujourd'hui en France? Mais de droit de réponse, bien sûr. Alors si vous avez raté ça, je vous conseille de ne pas manquer ce qui va suivre, car je crois qu'on n'a pas fini d'en parler.
Je dis que ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites?
Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire.
Comment donc? J'ai voulu quand même aller jusqu'au bout.
Pourquoi?
Jusqu'à quelle limite on pouvait se permettre de tenir de tels propos, mais pas dans une émission publique.
Mais quand même, la langue française, on n'a jamais vu ça, non?
Ah, mais c'est exact.
Non.
Mais c'est courant aujourd'hui.
Ah non, mais c'est courant, mais moi je suis...
Non, mais c'est pas une raison.
On est 5 jeunes de la PJJ et on fait une émission radio sur le thème d'exprimation.
Non, c'est l'expression, exprime-toi bien. Suivant les lieux, je m'exprime de manière différente. Dans mon quartier, on parle de tout et de rien, des filles et du foot. On doit parler comme une racaille, dire des gros mots, des insultes. Sinon, on passe pour un bouffon, parce qu'on parle poliment. Je me sens bien là-bas, je me sens libre, il n'y a pas de règles. On parle comme on veut. À la maison, par contre, avec mes sœurs, je parle pas. Avec mon frère, on aime les mêmes choses, la play, les motos. Donc on arrive plus facilement à se parler. Avec mon père, c'est le respect. Je reste poli. Je me sens tranquille. Mais je me retiens de dire des gros mots. On parle aussi de foot. C'est le sujet où on s'entend bien. Il soutient l'équipe d'Algérie, et moi aussi. Du coup, on regarde les matchs ensemble. Et j'aime bien ces moments-là. À l'école, je crie, je bavarde. C'est mon moyen pour m'exprimer. Dès qu'un prof ne s'occupe pas de moi, je m'exprime en foutant le bordel. On dit de moi que je suis un élève perturbateur. Si j'aime pas quelqu'un, je ne parle pas avec lui. Tu me dis bonjour une fois, je te réponds pas. Tu me dis bonjour deux fois, je te réponds pas non plus. Je te fais comprendre par mon silence. La seule chose que j'aime à l'école, c'est le sport. Donc dans ces cours, quand le prof me parle, je fais ce qu'il me dit sans que ça me rende fou. Le foot, quand j'étais petit, c'était ma voix, mon moyen d'expression.
Yann Barry, donc adjoint au chef d'agence et journaliste au Midi Libre, Nîmes.
Quel est le rôle des journaux des quotidiens comme Midi Libre?
Alors, il y a différentes missions pour le Midi Libre. C'est de donner d'abord des informations pratiques. La deuxième, c'est d'essayer, comme je vous disais tout à l'heure, de décrypter une information. Il y a deux volets. Il y a rendre compte d'une actualité qui peut être politique, sociale, sportive, dans les quartiers, la vie associative. Et ça, c'est une actualité qu'on peut donner donc au niveau à l'échelle de la ville, on va dire, à l'échelle de Nîmes, ville. Et puis il y a également tout ce qui vient des villages. Donc ça, ce sont pas des journalistes qui donnent ces informations-là, ce sont des correspondants qui sont pas professionnels, mais qui nous il y a une centaine, je crois, à l'échelle de notre édition nîmoise, qui nous donnent en fait des informations chaque jour pratiquement, et qui permettent d'alimenter aussi notre journal.
Quelle liberté d'expression disposez-vous?
On a une liberté d'expression forcément, dans le sens où il n'y a pas de pression normalement à l'échelle de notre région, de notre département, de notre ville. Parfois, on peut avoir des problèmes avec certaines communes, et en ce moment, on en a une notamment au sud de notre département qui nous pose problème, où on a un élu, un maire qui nous attaque en justice ou pas loin systématiquement. Donc ça c'est un peu compliqué à gérer pour la liberté d'expression. On a aussi une pression parfois économique de certaines collectivités locales, des mairies par exemple, des sociétés qui nous disent si vous faites ce sujet-là qui est critique vis-à-vis de notre société, vis-à-vis de notre mairie ou de notre municipalité, on peut vous retirer le budget publicitaire. Ça peut arriver, c'est très très rare, heureusement. Donc là, bah forcément, nous, on a la réponse adaptée. On ne plie pas à ce genre de pression. C'est très, très rare, mais ça peut arriver. Voilà, en tout.
Est-ce que vous êtes soumis à la censure ?
La censure, c'est plus... Oui, enfin, c'est nous qui nous l'imposons, la censure, en fait. Alors, il peut y avoir le directeur de la publication qui peut nous dire « Non, non, avant publication, vous passez pas telle information, en tout cas, pas sous cette forme-là. » La censure, en fait, on se l'impose pour éviter, par exemple, des procès en diffamation, pour éviter des plaintes. On est très sensible à ça, à ne pas blesser. Enfin, moi, je sais que je fais très attention sur des sujets très sensibles, en me disant, voilà, il faut aussi faire attention à la personne qui va lire le lendemain le journal et ces lignes-là, qu'elle soit pas blessée par rapport à ce que je peux écrire. Parce que parfois, bon, on a des sujets qui sont hyper forts et qui peuvent justement susciter des réactions très, très vives.
Pour moi, l'expression, c'est de crier. J'exprime ma colère, j'ai besoin qu'on m'entende. Quand mes éduques me donnent des ordres sur les règles de vie du foyer, me répètent les choses plusieurs fois et haussent le ton, j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Que ça soit eux ou mes parents, l'autorité, ça me met le démon. Même si je les aime et que j'ai du respect pour eux. L'autorité, je connais pas. J'ai pas été habituée. J'aimerais qu'ils acceptent que je puisse faire les choses à ma manière, même si c'est pas toujours bien. Avant, je criais. Je cassais tout quand j'étais pas d'accord. J'ai vu beaucoup de violence dans mon enfance. Des cris, des pleurs, des marques. Je faisais ce que je connaissais. J'ai pris l'exemple dans mon passé. Pas de dialogue, pas de mots gentils. Aujourd'hui, quand ça va pas, quand je suis pleine de nerfs, je demande qu'on m'amène à la boxe. Ça me soulage. Je me défoule. Je me sens mieux après. C'est devenu un moyen de relâcher la pression, de vider ma tête. Je m'exprime avec les gants de boxe. Par rapport à avant, on peut dire que je me suis calmée. Mais j'ai toujours besoin qu'on m'entende. Sauf que maintenant, j'essaye de parler en m'expliquant calmement. Le cri et la violence, ça résout rien au final. Être violent avec les mots, envers ses parents, c'est mal. N'oublie pas que c'est eux qui t'ont donné la vie.
Nous avons eu l'occasion de recevoir Anna et Carmen, deux jeunes filles malentendantes accompagnées de Madame Joucan, assistante maternelle, afin qu'elles fassent part de leur point de vue particulier sur l'expression.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Anna, j'ai 14 ans, j'habite à Rodillan.
Carmen va signer et je vais traduire. Je m'appelle Carmen, j'habite à Rodillan avec Anna, j'ai 18 ans.
Est-ce que vous habitez ensemble ?
Je suis la fille de ma mère.
Carmen habite avec Anna, mais Carmen est accueillie chez nous dans le cadre de famille d'accueil.
Êtes-vous née malentendante ?
Oui.
Donc, Carmen est née sourde. Les deux sont nées sourdes. Il y a des possibilités d'évolution dans la surdité, mais toujours dans le sens négatif, c'est-à-dire dans la perte de l'audition.
Ça n'augmente jamais.
Non, ça n'augmente jamais. Et par contre, elles ont des appareils.
Comment faites-vous pour vous exprimer, pour vous comprendre ?
Alain dessine, ou pour communiquer avec les autres entendants, il faut articuler. Et avec les malentendants, on peut signer, pas avec tous. Et, ou alors on écrit un papier pour quand c'est difficile.
Alors pour Carmen, c'est aussi difficile de communiquer. Et Carmen, comme Anna, lise sur vos lèvres ce que vous dites.
Et est-ce que pour vous c'est dur, non ? Le regard des autres
Ça dépend des personnes. Pourquoi ? Parce qu'on porte des appareils, ou on parle mal, ou on ne comprend pas ce qu'ils disent, soit on a honte, ce qu'on n'a pas compris ce qu'on dit. Voilà.
Toi. Comment tu sens le regard des personnes sur toi ? Parfois, j'ai honte. Parfois, les autres pensent que je suis bête. Elle dit, je suis juste différente des autres.
Et on vous a déjà, et toi, on t'a déjà jugé par rapport à cela?
Oui, oui, il y a des personnes qui jugent, mais on les ignore.
Moi, je pense qu'en fait, il faut faire de ses faiblesses une arme. C'est mieux.
Est-ce que vous avez pu ressentir de la discrimination?
Par exemple, il y a des métiers qu'on ne peut pas faire.
Que toi, tu sens que parfois, on te met de côté parce que tu es sourde. Dans quoi? Oui. Donc, on peut la mettre... Il arrive qu'on met les sourdes de côté parce qu'on ne comprend pas leurs réponses ou leurs paroles, parce qu'elles ne peuvent pas articuler comme il faut, parce que l'articulation, la voix, dépend de ce que l'on entend. Si l'on n'entend pas bien, on ne peut pas répéter correctement. Donc les gens, parfois, ne vont pas parler avec eux simplement parce qu'ils sont bloqués, ils ne comprennent pas ce que le sourd en face leur dit.
D'accord. Connaissez-vous le langage des signes?
Oui, et l'MPC aussi.
En fait, quand un enfant naît, il ne comprend pas, au départ, du tout ce que vous dites, nous, quand on entend. Donc la langue des signes est ce que l'on peut dire la langue maternelle, la langue la plus facile pour eux à apprendre. À 6 mois, un bébé, il peut déjà signer. Comme nous, entendant, on parle, on va dire papa, maman, eux, à 6 mois, ils peuvent dire de l'eau, manger, papa, maman, mais en langue des signes.
Qu'est-ce que pour vous s'exprimer?
D'aller dans le monde avec les entendants.
Carmen et Anna, quand elles n'arrivent pas à dire ce qu'elles veulent, qu'est-ce qui se passe? Elles se mettent en colère. Elles s'énervent. Et alors, elles peuvent crier. Et comme elles n'entendent pas, quand elles crient très fort. Ou alors, elles font du bruit, elles claquent la porte, elles poussent les chaises. Et c'est les entendants qui sont gênés, plus que elles. Et après, elles sont aussi très tristes, parce qu'elles se retrouvent enfermées dans le monde où on n'entend rien.
Bon, mais merci beaucoup d'avoir répondu aux questions, d'avoir pris le temps de répondre. Ça nous a touchés, franchement, ouais, et j'espère à bientôt.
Les mots, les paroles, c'est bien beau tout ça. Il y en a marre de tout ce mensonge, de cette vie cruelle. Voici l'histoire de ma sœur Fatima, âgée de 22 ans. En sortant du travail en juillet 2012, sur le chemin, elle se fait renverser par un camion. Quand les secours sont arrivés, elle a été déclarée morte. Mais heureusement, à l'hôpital, elle a réouvert les yeux. Les pompiers ont dit, il y a des anges autour de toi. Depuis, elle a perdu 80% de sa jambe, le goût, l'odorat. Elle est passée par des étapes difficiles jusqu'à un séjour en psychiatrie. Un jour, elle m'appelle, en larmes, elle me dit, Redon, s'il te plaît, viens, je vais péter les plombs. J'y suis allé, je l'ai trouvée pieds nus.
J'avais une haine de fou malade.
Là, j'ai pété un plomb, c'est bon. J'ai craqué. J'avais besoin de m'exprimer comme ça, pour me faire comprendre. Mais personne ne me comprenait et voulait m'écouter. J'étais très en colère. C'est comme si je partageais toute la souffrance qu'a eue ma sœur. Ça fait 3 ans qu'on essaye de porter plainte. Et à chaque fois, on me mène en bateau. Tout est bloqué. Même les lettres que j'ai faites au procureur n'ont rien fait avancer. Jamais de réponse. J'aimerais que tous les problèmes liés à cette histoire se règlent. Simplement que la justice se fasse, qu'ils soient enfin jugés. S'exprimer, ce n'est pas que parler. C'est se réveiller, agir, faire bouger les choses. Des fois, on me dit que cette histoire me fait aller trop loin. Et parfois, je calcule plus rien. Je fais ce que j'ai à faire. En tout cas, c'est pas de baisser les bras. C'est me battre. Jamais abandonner.
Appel en cours. En communication. Vous pouvez entrer.
On a rendez-vous avec Annie.
Du coup, vous pouvez y aller, c'est dans le studio gris, le numéro 6. Je veux gris numéro 6. Merci.
Ils ont dit c'est un studio gris, porte 6.
Chut. On va rentrer dans le studio.
Je pense qu'on a...
Bonjour.
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 Ah, vous pouvez continuer. On fait répète, non?
Oui. Oui. Ah, on a essayé de
l'économie. Faites comme si on n'est pas là, on est là.
Parce qu'il y a des mots que tu dis. Facile.
Vous êtes rencontrés.
Yannine, tu veux répondre?
En fait, il était en train de chercher une chanteuse et moi, j'ai cherché un violoncelliste et j'imaginais vraiment clair le violoncelle dans mes chansons. Les gens ils pensent que c'est pas possible de jouer la cumbia avec le violoncelle. Et moi, ah, écoute, donne-moi ton numéro. je l'appelais tout de suite.
Ouais, c'est ça. On s'est rencontrés comme de cette façon-là, en fait. Donc, ça fait il y a 2 ans de ça. Et Rafa nous a rejoint il y a un an. Donc ça fait 2 ans que le groupe est monté, on va dire, mais que le groupe a 3 dans cette formation que vous avez vue, ça fait 1 an.
Comment la musique vous permet-elle de vous exprimer?
À travers de ce que je ressens, à travers de mes compositions, mes écritures, mais ce que je veux exprimer.
Qu'est-ce que le public exprime vous inspire?
Ça m'inspire la connexion. Pour moi, c'est... Les gens, nous sommes partis d'un tout.
J'ai remarqué que vous jouez avec votre cœur.
Parce que c'est comme ça, c'est naturel. Je le ressens comme ça. Et c'est vrai, c'est quelque chose d'authentique ce que je veux exprimer.
Comment faites-vous pour faire passer des messages en espagnol?
C'est pas les paroles que... C'est la musique, en fait, principalement, qui passe les messages plutôt que les paroles.
Ça vous arrive de vous exprimer avec les instruments?
On le fait, c'est ce qu'on fait en fait, hein, quand on joue de la musique, c'est de l'expression à part entière, quoi. C'est vraiment, d'autant plus que le violoncelle, donc moi je joue le violoncelle dans ce groupe, est reconnu pour être l'instrument qui a la tessiture la plus proche de la voix.
Est-ce que dans votre pays, vous exprimez pareil ou différemment que la France?
Oui, je trouve que nous sommes un peu plus expressives dans notre corps. On est plus, on exagère un petit peu plus le geste, comme moi, c'est pareil là-bas. Ici, c'est plus introverti.
Quel est votre instrument?
Mon instrument, c'est un charango. C'est un instrument à cordes, une espèce de petite guitare de la taille d'un ukulélé, qui est un instrument typique de l'Amérique du Sud.
Votre instrument à vous, qu'est-ce qu'il exprime?
Qu'est-ce qu'il exprime, mon instrument? Je pense qu'il arrive à exprimer ce que moi, j'arrive à le faire exprimer. Mais il a quand même une tendance à rajouter des touches de gaieté, de joie, par son son un peu brillant. C'est un instrument qui s'est très lié à une culture très ancienne, amérindienne. Et donc il y a beaucoup de profondeur en lui et beaucoup d'histoire derrière lui.
Merci.
La vida no es la misma sin la expresión. La vie, ce n'est pas la même sans l'expression.
Merci.
No la quieren, destrucción les conviene. Y si salto las cadenas de consumo, no sentiré más satisfacción. Juego todavía sabiendo lo que ocurre si conciencia solo cumple un canto de nunca acaba. Pero busco una razón para seguir existiendo. Pero como si no escucho mi piel, madre tierra, ya me dé el aliento, me da la melodía. Inspiro nuevo, di desata mi garganta.
Je compose mes textes de rap moi-même. C'est un moyen pour moi de m'exprimer autrement que par la parole classique. Quand je suis derrière le micro, comme maintenant, je ne suis plus moi-même. Je me défoule,
À cet instant-là, toutes les émotions sortent, comme la colère, la joie et tout ce qui me saoule. À l'école, c'est dur, ça m'intéresse pas. Je sais que mon avenir dépend de mes notes et du travail. Du coup, j'ai conscience que je ne pourrai pas avoir un métier extraordinaire. Créer des textes de musique, c'est mon univers, ma bulle. C'est un bon moyen de m'apaiser intérieurement. Et grâce à ça, je me sens mieux. Ah, au fait, mon blaze, c'est Dasco. Quand j'ai pas d'inspiration, en 2 heures j'écris 2-3 phrases. Ma plus grosse fierté, mes sons, pour ça qu'on m'appelle par mon blaze. Je recherche les phrases, j'essaye de parler de moi. Si je reste bien dans le thème, je sais que dans le domaine, je suis roi. J'écris jamais sans instru, ça me permet d'avoir le bon flow. Un chat ne fait pas un chien, mais les blindés font les manchots. Je suis tellement à l'aise que je fais des rimes même en radio. Je suis libre de m'exprimer, car je sais ce que je vaux. Ha ha ha. Et ouais, la musique est avant tout une passion. Et je suis fier de ce que je fais. Je fais aussi ça pour me faire reconnaître. Des fois, j'ai des avis positifs de personnes que je connais pas. Ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Je prends en quelque sorte une revanche. Et la partie est loin d'être terminée. J'espère un jour arriver au sommet. Tout ça pour vous dire que la musique est le seul vrai moyen de m'exprimer.
Nous sommes allés au CADA à la rencontre de Madame Azuel. C'est pour les réfugiés politiques qui ont quitté leur pays.
Comment travaillez-vous à partir des langues des différents usagers ?
On a sur le CADA une interprète en langue russe, qui est arménienne, donc qui parle russe, arménien. Les pays de l'ex-URSS, les personnes qui en viennent parlent toutes russe. Pour les Albanais, et on a aussi quelques familles mongoles, on fait venir quand il y a besoin des interprètes. On travaille aussi parfois avec l'entourage, quelqu'un qui est en France depuis plus longtemps qui peut venir traduire, ou Google Traduction dans le pire des cas.
Ont-ils la possibilité de s'exprimer librement dans ces pays ?
Dans leur pays, non. Non, non. La plupart du temps, non. Sinon, ils ne seraient pas partis.
De quelle façon vous arrivez à les faire s'exprimer sur leur vie ?
Dans la procédure, les personnes, pour faire leur demande d'asile, doivent présenter un dossier à l'OFPRA, l'Office français pour les demandeurs d'asile. Dans ce dossier, il y a un récit. C'est pourquoi, les raisons pour lesquelles ils ont fui leur pays. Alors, si les personnes ont fait seules, ce qui arrive parfois, ce récit, c'est assez succès, souvent. C'est tellement clair pour eux qu'ils ne voient pas l'intérêt de mettre tous les détails. Ensuite, ils vont être convoqués à un entretien OFPRA où ils devront prouver que ce qu'ils disent est vrai, qu'ils sont vraiment en danger dans leur pays. Donc, si on travaille ce récit avec les personnes, on va remonter le plus loin possible dans leur enfance, leur naissance, leur famille, leur pays, détailler le plus possible. Et la plupart du temps, les personnes ont envie de parler de ce qu'elles ont vécu et disent que nous, en France, on est dans un pays libre, des droits de l'homme, un très beau pays. Et on n'imagine même pas ce qui peut se passer dans leur pays. Ils ont envie, la plupart du temps, de nous livrer ce qu'ils ont vécu et ce qui se passe dans leur pays.
Quelle histoire ont eu ces gens ?
Il y a des pays où il existe encore de fortes vendettas, où si quelqu'un de votre famille tue, même accidentellement, quelqu'un de ma famille, j'ai le droit de tuer tous les hommes de votre famille. Des problèmes de non-respect des droits de l'homme, comme la personne qu'on a eue qui venait du Tibet, ou les Mongols, ou qui sont écrasés par le gouvernement chinois la plupart du temps, qui leur volent tout, et les Mongols se retrouvent démunis, totalement démunis. Ou des pays où quand on n'est pas du même côté que le parti au gouvernement, on n'a pas le droit de s'exprimer. Et on peut finir rapidement en prison si on fait une manifestation ou si on exprime librement ce qu'on pense. En prison, où les droits de l'homme ne sont pas non plus respectés.
Merci beaucoup pour cette interview et à bientôt, on espère.
Monsieur le Président, je vous lis ce texte que vous écouterez peut-être si vous avez le temps. Je veux vous parler de ma mère. Monsieur le Président, je suis né loin. À Dzaoudzi, Mayotte. Je suis né loin, mais je suis français, comme vous, monsieur le président. Ma mère est née aux Comores. Elle est venue à Mayotte pour fuir la misère. De là, on est venu en France. Ma mère, mon frère, mes sœurs et moi, pour pouvoir étudier et avoir un avenir. Au départ, on avait une vie normale, monsieur le président. Ma mère avait un titre de séjour. On pouvait aller à l'hôpital. On pouvait être soigné quand on était malade. On avait des droits, comme tout le monde. Aujourd'hui, tout a changé. Ils n'ont pas voulu refaire son titre de séjour. Ils croient que mon frère, mes sœurs, que nous vivons à Mayotte. Pourtant, on est tous à l'école de la République, à Nîmes. Monsieur le Président, je voudrais vous dire que moi, je trouve ça injuste. Je suis français et ma mère vit en France sans droit. C'est dur de vivre comme ça. Je voudrais vous demander de lui rendre ses droits pour ne plus avoir peur qu'on la renvoie. Moi qui suis français, j'ai peur d'y retourner. Ici, monsieur le président, j'ai plus de chances de travailler, de m'en sortir, d'avoir un avenir. Je ne comprends pas pourquoi il ne renouvelle pas son titre de séjour. Ça me met mal à l'aise de ne pas savoir ce qui va se passer. De ne pas savoir s'ils vont la renvoyer à Mayotte. Département français.
Merci Wakadji.
Paloma, la grande Yanini Trio.
Madame Mazuel, Monsieur Yann Barry.
Madame Juka, Anna et Carmen.